Voilà. Paris, ça. Oui, ça va. Alors, la caméra
passe. What is this, Carter?
Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded, sir.
Aggredisci.
Passata, tu che fai?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che dici? Papa fa che dici?
Bonjour et bienvenue dans Cinémascope ce vendredi encore pour l'émission des spectateurs sur grand écran à Aubenas et autour d'Aubenas. Naturellement, aujourd'hui, nous sommes en comité réduit, mais néanmoins audacieux avec René.
Bonjour.
René. Et votre serviteur, Olivier. Quatre films au menu, avec d'abord une programmation américano-mexicaine. Nous allons parler de cuir et puis nous allons parler également d'Emilia Pérez. Ensuite, nous nous acheminerons vers, au contraire, un film fiction documentaire, Le Dernier Souffle. Alors là, bien de chez nous et bien dans un sujet d'actualité pour notre société contemporaine. Et nous finirons par Anora, qui se passe, là, si j'ai bien compris, à Brooklyn. C'est René qui nous en parlera, car je ne l'ai pas vu. Nous commençons donc par le bizarre. On se lance dans le bizarre avec cuir.
We're all parts of a tremendous whole. There's no use fighting it. Those parts ought to work together. You know, to conquer ignorance and prejudice and hate with knowledge and sincerity and love. The difficulty is to convince someone else he is really part of you. So what the hell?
I want to talk to you. Without speaking.
Oui, voilà quelques idéaux, quelques grandes idées et une quête, comme on s'en rend compte, avec les dialogues donc de cuir. Ce film est l'adaptation. J'aime pas trop ce mot à l'écran. Ce mot à l'écran, c'est d'un livre de William Burroughs. C'est un livre écrit en 1953, le même titre, Cuir, mais qui n'a été publié qu'en 1985, toutefois en 1953. Le même William Burroughs nous avait donné Junkie, Confession of an Unredeemed Drug Addict. Confession d'un addict aux drogues qui ne sait pas, qui n'a pas été en rémission, qui n'est pas en rémission, hein, en quelque sorte. Effectivement, donc nous sommes en 1950 et William Burroughs, le vrai, se rend au Mexique. C'est un petit peu la mode à l'époque. Il se rend au Mexique avec, bon, alors, est-ce réalité, est-ce prétexte? Le prétexte, en tout cas, au minimum, c'est de trouver une plante, le yagué. Le yagué est une plante utilisée vraisemblablement, on suppose, par les chamans dans la forêt équatoriale de l'Amérique centrale, en particulier, et c'est une plante qui est censé permettre la télépathie. Mmh. En attendant de quérir cette plante, le héros William Burroughs, je sais pas ce que je vais parler de Ginsberg, William Burroughs est en quête de bien d'autres choses, de cigarettes, d'alcool, de cocaïne, d'héroïne. Il est vraiment drug addict et puis il est aussi en quête d'amour. Mais peut-être que cette quête est trop orgueilleuse pour s'avouer une quête d'amour, si bien qu'elle va être surtout une quête sexuelle, hein, et c'est avec son amant qu'il va partir à la recherche de cette plante. Alors, on est évidemment dans un film qui va jouer comme Burrow lui-même entre réalité et fiction, à sans arrêt jouer le témoignage mais en même temps le mensonge. Hein, c'est un petit peu la psychologie de l'addict, hein, qui est toujours dans le déni, dans la dénégation, et qui trouve toujours des bonnes raisons de faire ce qu'il fait, même si, effectivement, elles sont un petit peu artificiellement construites, ces raisons. Voilà, donc on a ce récit d'une quête, et il m'a semblé que le film était lui aussi à la fois victime et bénéficiaire d'un même genre de quête. Le réalisateur veut nous donner à voir les émotions et les espérances de ces héros, mais reste en règle générale assez peu convaincant, ce qui donne un film très esthétisant finalement, avec, comme toujours dans ces cas-là, quelques réussites, mais qui paraissent un peu des réussites de hasard dans un projet qui ne tient peut-être pas très très bien ensemble de lui-même. Alors, de très belles images, de très beaux passages par moment, mais dans un ensemble qui reste finalement très théâtral, très artificiel en quelque sorte. Et d'ailleurs, ce film a été tourné entièrement en studio, à Cinecittà. Oui, entièrement. Et la forêt vierge est une forêt vierge de studio, et ça se voit.
Mais c'est fait exprès.
Je pense que c'est fait exprès. Je pense que c'est pour donner cette sensation justement d'artifice, même dans la quête. Mais le problème, c'est que cet artifice y devient visible, et on finit par se demander si la quête du réalisateur dans la réalisation de ce film n'est pas elle aussi un petit peu artificielle et un petit peu manquée, quoi. C'est un peu cette impression. C'est très spectaculaire, c'est très esthétisant, mais souvent assez peu convaincant finalement. Et j'en veux pour preuve qu'un des moments les plus convaincants du film, à mon avis, c'est un moment où justement le héros rencontre un botaniste avant de se lancer dans la forêt à la recherche de cette plante et d'un médecin américain qui la connaît et qui s'y trouve. Hein. Et le botaniste lui dit en quelque sorte ses quatre vérités. Hein. Lui explique que y a beaucoup. Il faut pas qu'il confonde l'usage chamanique de cette plante avec une de ses addictions, hein, que la question, c'est plus la question du plaisir, c'est la question de la vérité, et qu'il risque d'être un petit peu déçu par la révélation de cette vérité. Le mérite que j'ai trouvé à ce film, c'est que il évoque sans la dire cette fameuse Beat Generation, justement. C'est pour ça que j'ai eu...
Tu as mentionné Ginsberg.
Voilà, j'ai eu ce lapsus autour de Ginsberg, qui a à peu près le même âge, un peu plus jeune quand même, Ginsberg. On aurait pu évoquer Jack Kerouac également, Burrow et Kerouac se connaissaient, se sont fréquentés. Et ceux qui connaissent en particulier donc Kerouac et Burrow, pour avoir lu par exemple On the Road, sur la route, savent très bien comment Kerouac joue du réel et du mensonger, du fictif, je dirais presque interminablement. Et ça fait penser à un autre personnage de l'époque, qui est Carlos Castaneda. Carlos Castaneda, donc, qui a écrit moult livres présentés comme des documentaires anthropologiques et qui se sont avérés être
vraisemblables. Des faux, en quelque sorte.
En quelque sorte, des faux. Ouais. Qui sont des livres, les livres de Carlos Castaneda, d'ailleurs aux États-Unis, sont classés maintenant littérature postcoloniale. J'ai trouvé que c'était assez intéressant. Et alors, le fait que ce film n'évoque que l'itinéraire de Burrow, hein, sans pratiquer cette espèce d'amalgame avec d'autres personnages, à mon avis, nous conduit à plus de vérité. C'est-à-dire cette qualification de Beat Generation, de beatnik, etc., ces auteurs-là l'ont refusé eux-mêmes. Bien trop jaloux de leur individualité, d'une certaine manière, à juste titre, du reste, puisqu'ils sont très différents. Et je crois que ce film-là, il a quelque chose de romantique, et en tant que tel, il est l'apologie d'un itinéraire individuel. Et j'ai trouvé que ça, c'était plus intéressant qu'une sorte d'amalgame autour d'une Beat Generation qui serait en quelque sorte un avant-goût de la contre-culture qui se développera dans les années plutôt 60-70.
À t'écouter, ça fait un peu out of this world.
Oui, complètement, complètement. Et donc, c'est un mérite de ce film, je l'ai apprécié pour cette raison-là. Il m'a mis dans un face-à-face avec Burrow et avec les contradictions du personnage et peut-être de cette littérature ensuite. Voilà, donc un film qui mérite d'être vu pour ça. Je vous en ai donné une petite mise en bouche que vous apprécierez en allant le voir, je pense, quand même. Nous restons au Mexique, et un petit peu aux États-Unis d'ailleurs aussi, avec le magnifique Emilia Pérez, dont René va nous parler après qu'on l'ait mis dans nos oreilles.
J'ai toujours été deux. Dans la porcherie, ma vraie nature m'a toujours suivi comme une ombre. Aidez-moi, docteur. C'est le seul espoir que j'ai de pouvoir vivre ma vie. La vie que la nature m'a refusée. Maintenant, on ne peut plus faire marche arrière, petite. Ni toi, ni moi.
Emilia Pérez, enchantée.
Voilà, Emilia Pérez, un film qui n'est pas sans rapport thématique avec celui dont je viens de parler, parce qu'il est aussi question de quête, mais de quête de genre plutôt. Mmh. René, qu'en as-tu pensé ?
Beaucoup de bien, c'est d'ailleurs pour ça, puisque l'occasion m'en a été offerte d'y revenir, puisque vous en aviez déjà parlé, parce que je pense qu'effectivement c'est un film qui mérite qu'on s'y attarde. Mais d'abord un mot sur Audiard. Moi, je trouve que Audiard réussit tout ce qu'il entreprend. Oui. C'est un metteur en scène pour lequel j'ai beaucoup d'attirance. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Une anecdote au passage, en 2003, je pense qu'un Stephen Frears, le metteur en scène anglais, est venu. Il a mentionné, il a parlé d'un metteur en scène français, un seul, et il a mentionné Audiard. Ça ne m'étonne pas, ça ne m'a pas étonné à l'époque. Alors, de fait, la mise en scène du film est impressionnante, de maîtrise, de rythme, de créativité. Alors, bon, on peut parler aussi, bien sûr, du jeu des acteurs. Vous l'avez fait sans doute, mais il n'y a pas grand-chose à rajouter. En particulier, bien sûr, Carla Sofia Gascón, qui allie la force et la douceur avec un tel talent. On peut aussi rappeler la musique, autre réussite du film. Mais c'est surtout le thème de la rédemption, et je pense que vous en avez beaucoup parlé, mais j'y reviens quand même.
Oui, non, mais pas tant que ça. On n'en a pas parlé autant que ce film le mérite, je pense.
Alors, qui rend ce film, pour moi, si attachant et si profond ? Alors, ce monstre, un baron de la drogue, y a-t-il pire individu qu'un type comme ça, qui décide de devenir une femme, et une femme qui va s'attacher à réparer le malheur qu'elle a causé dans le passé en tant que Manitas, en fondant une association d'aide aux victimes des cartels. Voilà, en soi, c'est émouvant, mais c'est surtout très bien mis en scène. Le jeu de l'actrice en particulier, je veux dire, on ne peut pas développer un jeu quand on est acteur si on n'est pas entouré par un metteur en scène de grande qualité. Ouais. Et c'est ce qui se passe dans ce film. C'est donc aussi un film sur la métamorphose. Et là, on touche à un thème récurrent de l'œuvre de Audiard. On retrouve ça dans presque tous ses films. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, on a dans un de ses films un détenu naïf qui se meut en chef de la pègre. Dans Un prophète, une autre jeune femme qui se réinvente après avoir perdu ses jambes dans Le rouillé d'os. On a ce vétéran qui se dote du passeport de mort dans Tipan. Voilà, c'est une forme d'optimisme, je pense, de sa part. Audiard croit en l'homme, il croit au pouvoir de l'homme de se régénérer, de redémarrer, de retourner les situations. Et ça, ce n'est pas une mince marque positive dans un monde qui, en ce moment, a tendance à s'adonner beaucoup au pessimisme. Voilà. Donc, il y a la dimension morale avec ce rachat. Tout ça raccroche ce film, bien sûr, à l'écriture du conte. On pense un peu à Cendrillon, par exemple. Le thème de la métamorphose est caractéristique et fondateur du conte, oui. Évidemment. Voilà, moi j'ai été heureux de revenir sur ce film. Alors je l'ai vu il y a longtemps, je l'ai vu quand il est sorti, donc ça fait, je sais pas, un mois et demi.
Il reste présent.
On le porte en soi. Oui. Sa versatilité formelle, son côté multiforme, sa générosité, ce côté comédie musicale qui est loin d'être une caractéristique du cinéma français. Et c'est une comédie musicale réussie. Oui, oui. Bon, il y a Jacques Demy, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose en France en matière de comédie musicale. Et là, il s'y attaque et il y arrive. Et c'est un peu un touche-à-tout de grands talents. Audiard, on se rappelle, on en avait parlé ici, je me rappelle, tu avais beaucoup aimé Olivier, le film sur les Frères Sisters.
Oui, magnifique.
C'était magnifique, et c'était un western. Ouais. Là, c'est un film de... Je sais pas,
un film de cartel un peu, et puis autre chose en même temps.
Oui, un film multiforme, multisujet, et là aussi, c'est une réussite. Ouais. Donc, je pense que c'est un film qu'on aura plaisir à revoir dans les années à venir.
Oui, je pense, là je peux pas m'empêcher de comparer avec Cuir, donc je l'ai pas dit, de Luca Guadagnino. On sent un Daniel Craig, parce que j'en ai pas parlé non plus, mais c'est Burrow est joué par Daniel Craig,
oui.
Qu'on sent lui aussi en recherche de son personnage.
Il y a ça, mais il y a aussi autre chose. D'un point de vue professionnel chez lui, il essaie de sortir du carcan de James Bond.
C'est ça, complètement.
Qui l'a stéréotypé à mort. Oui. Et il n'y a pas pire pour un acteur ambitieux que de se retrouver stéréotypé et ne plus pouvoir rien faire. Ça, c'est une occasion rêvée pour lui de sortir de ça.
Voilà, et donc, il y parvient largement.
Ah oui, d'accord. Mais ça, c'est réussi, il est convaincant.
Oui, mais on sent ce phénomène de quête. On sent que de même que le réalisateur est en quête du film, d'une certaine manière, et n'arrive peut-être pas à tout régler, on sent que Daniel Craig, peut-être à cause du personnage de James Bond, peut-être aussi, tu viens d'en parler, par défaut de direction de la part du réalisateur, est un petit peu en recherche de personnages et que parfois ça le conduit, par exemple, à en faire un peu beaucoup. Si on compare donc avec l'actrice principale de Jacques Audiard, par exemple.
Qui, elle, au contraire.
Est complètement investie, complètement
dans
dedans.
Son personnage.
Crédible de A à Z.
Oui, oui.
Donc, il y a une comparaison assez intéressante qui, évidemment, n'est pas tout à fait en faveur de Cuir. Jacques Audiard, pour Emilia Pérez, a eu le prix des auditeurs de France Inter, le Masque et la Plume. Hein. Il était d'ailleurs ravi d'avoir ce prix qui, comme tu le disais hors antenne, est un prix qui fait sens, puisque c'est un prix donné par des spectateurs, pas par des professionnels ou des producteurs. Donc, j'ai découvert, je crois que c'était la première fois que j'entendais Jacques Audiard parler, et j'ai été saisi par sa très grande simplicité, sa très grande humilité, alors qu'effectivement, je m'attendais à ce que le réalisateur des films dont on vient de parler soit peut-être un petit peu au-dessus, comme ça, un petit peu du média qu'il avait invité ou des spectateurs qui étaient dans la salle.
Là, pas du tout.
Pas du tout. Ouais. Et donc, une fois de plus, on a, je crois, la preuve que le talent le plus élevé est en général assorti d'une vraie simplicité, je crois.
Jacques Audiard, qui était venu aux rencontres des cinémas d'Europe, mais il y a longtemps.
Il y a longtemps.
Il était venu, à l'époque de Michel Simard.
Ouais, mais ça me surprend pas. Et véritablement, ça conduit à regarder ces films avec peut-être encore plus d'attention et d'admiration pour coup, parce qu'effectivement, certains nombre de ces films sont pour moi vraiment au tout premier plan. Voilà, on va poursuivre. Alors là, j'ai pas de transition, ça n'a rien à voir. C'est mon dernier souffle. On se le met un petit peu dans l'esprit.
Je vous présente le docteur Augustin Masset.
J'ai lu vos livres. Le fléau des seigneurs m'a fait rire.
Mes livres vous font rire ? Vos patients, vous leur dites toujours la vérité?
Oui, rendre l'âme, je veux bien, hein. Mais dites-moi à qui?
Pourquoi voulez-vous rendre quelque chose qui est à vous, à quelqu'un que vous ne connaissez pas?
Il n'est pas d'ici, lui.
Oui, non, il est philosophe.
Personne ne veut croire réellement à sa propre mort et tout le monde en a une peur viscérale.
Il faut toujours dire la vérité à celui qui la demande.
Nous sommes un lieu de vie où l'on rit plus souvent qu'on ne pleure.
Tu fais un beau métier. Tu rends humain ce qui ne l'est peut-être pas.
Alors je me suis permis d'inviter Fabrice Toussaint. Il s'intéresse à ce que nous avons.
Je vous promets d'être le plus discret possible.
D'ici 20 à 25 ans, il y aura plus de 4 millions de personnes qui mériteront une fin de vie digne.
Vous proposez quoi?
Moi, je suis observateur. J'observe et je rapporte.
Ces connards sont croyants. Pas touchés à la vie. Même en ruine.
Philosopher, c'est apprendre à mourir. Foutaise. Ce qui s'apprend, c'est comment aider le vivant à mourir.
Tu acceptes de parler avec notre psychologue?
Mon psy, là-haut.
Oui, un film, alors là, j'avoue, qui, moi, m'a complètement dérouté. C'est un film que j'ai été voir... un petit peu sur le nom de Costa Gavras, ah oui, évidemment, et puis de Cadmeran et de surtout de Nypodalides, bon, Karine Viard accessoirement, enfin pas accessoirement, c'est une très très bonne actrice, mais et donc des noms d'acteurs. Et on se retrouve devant un film qui fait franchement l'impression d'un documentaire. C'est-à-dire que de Nypodalides incarne un philosophe à succès, mais quand même pas un philosophe médiatique, quelqu'un qui a une vraie profondeur de pensée.
C'est pas Bernard-Henri Lévy, quoi.
Non, pas exactement. C'est, alors, je sais pas s'il y a un jeu de mots. Enfin, disons que c'est quelqu'un qui serait plutôt comparable à Régis Debray ou. Enfin, voilà. Et ce qui est très curieux, c'est que on est vite pris par l'impression que si on a une telle impression de documentaire, c'est parce que les acteurs jouent justement très bien. C'est-à-dire que...
Ah ouais, eh oui, paradoxalement.
Paradoxalement, oui. C'est-à-dire que Denis Podalydès joue très bien un philosophe médiatique, mais pas trop, qui a une vraie réflexion en route depuis des années qu'il publie. Hein. Et puis on a Cadmeran qui... c'est un peu inattendu, endosse très très bien le rôle d'un médecin généraliste qui, peu à peu, s'est spécialisé dans la fin de vie, les soins palliatifs. Et donc, tout ça est très bien mis en scène, très crédible, à tel point donc que, précisément, on a l'impression de suivre un documentaire alors que c'est une fiction. Et donc, c'est assez intéressant. Alors, le défaut, ce qui... Alors bon, ça a quelque chose de déroutant déjà un peu, hein, de pas savoir où on se situe, surtout que c'est un petit peu une habitude dans le cinéma en ce moment de mélanger la fiction, le documentaire, le docu-fiction, le biopic, enfin, etc. Donc c'est un petit peu... Mais là, bon, on va voir, c'est essentiellement pour la bonne cause. Donc on est dérouté, mais c'est pas grave. La chose qui peut paraître un peu gênante par moment, c'est le côté un peu didactique. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on a beaucoup d'explications sur ce qu'il faudrait faire en termes de soins palliatifs, sur ce que la médecine ne fait pas en termes de fin de vie, etc. etc. Parfois, ça tourne un tout petit peu à la leçon. Bon, c'est Costa Gavras, hein, qui effectivement est un cinéaste témoin. Hein, ouais. Il a toujours été témoin de la dictature, de l'injustice, etc. Là, il est tout simplement témoin de quelque chose qui, évidemment, est de plus en plus présent dans nos sociétés pour une raison toute simple, c'est que nous sommes dans une société vieillissante et que, par conséquent, et vieillissante, mais avec des capacités médicales grandissante, si bien qu'effectivement la question de la fin de vie et des soins palliatifs est appelée à se poser
de plus en plus.
J'ai trouvé d'ailleurs qu'à un moment donné, Denis Podalydès, dans le rôle de philosophe, il se transporte dans un hôpital, et il est à l'arrière de la voiture, c'est pas lui qui conduit, il est même pas passager, il est à l'arrière, et à un moment donné il se penche comme ça entre les deux personnes devant et il dit: moi je crois que le XXe siècle
à épuiser la question de la sexualité avec la psychanalyse, etc.
Je suis d'accord.
Voilà, il a vraiment épuisé, je pense que dans les deux sens du terme, il nous a même épuisé avec la... Mais et il dit, c'est marrant, il dit, je pense que le 20e siècle a épuisé la question de la sexualité chez les intellectuels, quoi, et que le 21e siècle sera le siècle de la recherche sur la mort, justement. Et je crois que c'est assez profondément vrai et que finalement notre société, on le voit bien, doit réapprendre que la mort existe. C'est-à-dire que nos morts, nous avons depuis quelques décennies, quelques générations, deux générations peut-être, peut-être qu'une seule d'ailleurs, nos morts, nous avons tendance à les cacher, à les garder pour nous, même pas pour nous. D'ailleurs, hein, et souvent, la personne qui est décédée à l'hôpital, son décès, il correspond juste à un changement d'étage. Hein. On passe du troisième, où on était soigné, à la cave, où il y a la morgue.
On
escamote le macabé. Et on voit bien les limites de cet escamotage. Chasser le naturel, la mort, il revient naturellement au galop. Et donc, je crois que... Et c'est la nature philosophique de ce film. C'est un film qui est quand même beaucoup sur la vérité. Ouais. À savoir, déjà, la vérité que nous sommes mortels. À un moment donné, il y a un médecin africain qui a connu Kan Merad au Sénégal, qui vient lui rendre visite. Et évidemment, il est le messager, ce médecin africain, d'un pays où la mort est beaucoup plus présente, naturellement. On y meurt plus jeune, on y a encore des rituels, on y a encore des fêtes des morts, en quelque sorte, des cérémonies funèbres grandiloquentes, on pourrait dire, mais qui sont, à la vérité, juste à la mesure de la mort, réellement. Donc. Et donc, ça nous met devant ce premier diagnostic concernant la vérité qu'il nous faut nous redire les uns aux autres la vérité que nous sommes mortels. Et le deuxième élément, c'est que ce dire la vérité, il doit se faire naturellement dans le plus grand respect. C'est-à-dire que en même temps que nous devons dire la vérité sur la mort, nous sommes obligés de reconnaître que la mort, précisément, nous ne savons pas ce que c'est. Donc dire la vérité sur quelque chose que nous ignorons, c'est très compliqué. Et par conséquent, il faut le faire en respectant, en général, les convictions. Et toutes les convictions de celui qui pense qu'il va nourrir les vers de terre et puis point final, à ceux qui ont les croyances... qui peuvent nous paraître à nous les plus invraisemblables, métempsychose, réincarnation, etc. Donc il faut respecter évidemment tout ça, mais tout en... Donc en quelque sorte, il faut tenir deux rampes en même temps, celle de la vérité et celle du respect de toutes les convictions, même si elles nous apparaissent tout à fait étranges. Une des convictions, d'ailleurs, propres à notre société, étant finalement qu'il est possible de ne pas mourir. C'est-à-dire que le plus difficile à faire admettre, c'est qu'à un moment donné, plus de soins ne sert plus à rien. Et ça, on se rend compte que le malade s'en rend compte plus vite que son entourage, souvent. Et il faut que l'entourage l'accepte et laisse la personne qui va mourir, la laisse mourir. Et c'est assez compliqué. Bon, vous voyez... On n'est pas dans le léger, mais...
C'est ce que je vois.
Oui, mais en même temps, je crois que... Alors, tu es là, et je vais encore profiter du fait que tu es là pour te piquer ta formule, c'est un film incontestablement...
Utile. Voilà. Utile.
Non, mais vraiment, mais ta formule, si on l'utilise, c'est parce qu'elle est souvent...
À défaut d'être un peu roboratif.
Voilà, un petit peu, mais... Ah, je crois que le jeu en vaut
la peine.
En vaut la peine. Voilà. On va changer d'ambiance. Je ne sais pas si elle est tellement plus légère.
Ah non, elle n'est pas plus légère, mais c'est sur un autre sujet quand même.
Voilà, avec Anora.
Ouais.
What is that? Is that a butterfly?
Yeah. I'll just sit right next to you right here.
You're so classy.
I can build you a belt.
A money belt?
I got dollar signs like a real hoe.
No, but you're manifesting with those.
I got a kid who wants someone who speaks Russian. She's gonna take care of everything you need.
God bless America.
А ты работаешь вне клуба?
Not too shabby.
What do you do to get all this?
I'm a really big drug dealer.
Oh, really?
Are you
trust me. No.
Welcome to Vegas.
If I get married to an American, I wouldn't have to go back to Russia.
You want me to be your little wifey?
Voilà, Anora. Stripteaseuse à Brooklyn.
Tout à fait.
Oui, ça nous change des soins palliatifs tout de même.
Complètement. Alors, elle, qui va se transformer en Cendrillon des temps modernes lorsqu'elle rencontre le fils d'un oligarque russe. Sans réfléchir, elle épouse avec enthousiasme son prince charmant. Mais, lorsque la nouvelle parvient en Russie, le conte de fées s'en trouve menacé. Les parents du jeune homme débarque à New York avec la ferme intention de faire annuler le mariage.
Si j'ai bien compris, ils sont très riches.
Oh là là, ils ont le cul cousu d'or.
Ah.
Tout à fait. Alors, le film est un film portrait, celui d'une jeune femme objet. Et donc, les films comme ça sont tributaires du jeu de l'acteur, de l'actrice qui porte le personnage. En l'occurrence, Mickey Madison est pleine d'énergie, d'émotion, de sincérité. On s'attache à son personnage, on en suit les péripéties. Et à partir de là, le pari du film est gagné. Le spectateur, on a mis le spectateur dans sa poche. Ou plutôt, Sean Baker, le metteur en scène, a mis le spectateur dans sa poche. Une fois qu'on a dit ça, il est évident que dans l'immédiat, le film a plu. Ça marche fort. Palme d'or, critique dithyrambique, tout y est, même le cahier des cahiers du cinéma a aimé. C'est dire.
On peut dire donc.
C'est dire.
Voilà.
Voilà. Alors, pour moi, ça fait partie de ces films.
Trop d'amour tue l'amour, non?
Quelque chose comme ça, où si tu veux, on se dit « Ah ouais !» Et puis on se dit « Ah, qui sait ce que ça donnera dans quelques années ?»
Oui.
Est-ce que c'est un peu le piège du cinéma des fois? Le cinéma est tellement dans l'instant que après se dit, oh c'était que ce n'était que cela. Alors je sais pas, on va voir. Ce que je veux dire, c'est que c'est un film habile, très habile. Et Dieu sait si le cinéma américain est souvent habile. Il y a tout ce qu'il faut dans ce film. La structure du conte, Anora est une Cendrillon moderne. Et ça, c'est une recette éprouvée. Le nombre de films américains qui ont été faits sur ce thème, ouais. Mais on peut y passer le reste de sa vie, aller visionner.
Depuis Pretty Woman, enfin bref.
Voilà, il y en a un nombre incalculable, avec des remakes en plus. Souvent, ouais. Ces films, ça marchait tellement qu'on en a rajouté une couche. On a refait ça avec l'actrice en vogue du moment. C'est sans fin. C'est de la pratiquement de la production en chaîne. Ce film est une comédie de mœurs, un film sur l'envers du décor du rêve américain, sur le cauchemar américain. Là aussi, il y a de quoi faire, et Dieu sait si on fait et on voit. C'est un film sentimental qui vise à faire rire, puis à faire pleurer, et qui fait rire, et puis qui fait pleurer, et puis qui fait rire, et puis qui fait pleurer. C'est un film dans lequel on ne s'ennuie jamais, ça rebondit, c'est un film éminemment romanesque, c'est un film féministe, bien sûr, sur l'instrumentalisation des femmes, évidemment. Il y a un côté road movie, il y a un côté thriller, formellement c'est un bel objet, avec évidemment des intérieurs luxueux, des draps en satin, on s'envoie en l'air dans des lits surdimensionnés. On sent que, pour une fois, Sean Baker avait de l'argent pour faire son film, ce qui, dans le passé, n'était pas le cas. Voilà, tout ça est très séduisant, et on est séduit. À Cannes et ailleurs, on a été séduit. Et encore une fois, je me demande, dans quelques années, en revoyant ce film, si on ne voit pas un peu les ficelles, si on ne se dit pas qu'il en fait trop. C'est un film formaté pour réussir. Mais peut-être que je me trompe et que ce film vieillira bien. À l'heure qu'il est, j'aurais tendance à dire que qui trop embrasse, embrasse mal étreint. Il y a quelque chose de léger, il y a quelque chose de fragile dans ce film. Pour finir, je dirais ça, c'est le film d'une fille qui se fait exploiter, elle est stripteaseuse, elle s'adonne à la prostitution, mais cet aspect-là est escamoté, alors que c'est quand même le fond du film, quand même. Ouais. C'est quand même quelqu'un qui s'envoie en l'air et qui en souffre. Ben oui, mais on passe là-dessus en vitesse, on préfère le romanesque, l'action, les pleurs, les rires et tout le reste. Voilà. Ouais. C'est pas. J'ai fait comme tout le monde. J'ai aimé ce film, je sais pas si je l'aimerais dans. Je l'aimerais encore dans 15 jours. Est-ce que je l'aimerais dans quelques années? Je n'en suis pas sûr.
Oui, je comprends très très bien. Je crois que plus que jamais. Cette émission remet toutes les cartes, c'est à la mode cette expression, en main des spectateurs. Parce que, à part, je pense, Emilia Pérez, qui est incontestablement un grand film.
Ça tient, ouais.
Ça, vraiment. Je crois que les autres films dont nous avons parlé, je crois que les spectateurs vont devoir se faire leur propre opinion. C'est absolument pas des films dont on va dire « courez-y à tout prix », mais il y a à chaque fois vraiment quelque chose à retirer. Du plaisir, un enseignement, etc. Bah, un petit peu toutes les fonctions du cinéma.
Oui, un éclairage sur le moment ou sur la façon dont on vit le moment. C'est pas pour ça que c'est nécessairement des films de patrimoine, à part Emilia Pérez, je crois.
Oui, je crois que nous sommes d'accord
là-dessus.
Nous allons nous quitter sur ces paroles de sagesse et nous retrouver, si tout se passe bien, vendredi prochain pour un nouveau numéro de Cinémascope. Au revoir et bon week-end.